Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui, nous allons écouter Paroles de collectif agricole de Marie Cheneval, épisode 2, collectif sous toutes ses formes.
Paroles de collectif agricole. Une enquête radiophonique de Marie Cheneval en 3 épisodes. Un documentaire sonore qui explore 3 thèmes auxquels se confrontent celles et ceux qui s'installent en collectif agricole. Travailler à plusieurs, c'est vivre avec les autres, accepter les différences et partager les décisions. Dans un monde centré sur l'individu, ces collectifs tracent le sillon des communs et du faire ensemble. Épisode 2, le collectif sous toutes ses formes.
Ça, c'est un boulot chouette parce qu'on est 4. Là, tout seul, tu le fais pas.
Et tu peux pas plier ton machin tout seul.
Hein?
Oui, tu peux.
Mais même avec des plus petites largeurs. Hein.
Ça va chier.
Chouette,
oui, j'aurais pas dit ça. Ah ouais, tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire.
Ouais, j'aime ça.
Alors là, c'est la meilleure quand même, celle-là.
Bah, tu vois, en vieillissant, je m'adoucis. Hein.
Ouais,
j'ai jamais râlé pour faire des trucs comme ça. Hein.
Dans les statuts officiels qui existent en agriculture, on va retrouver le GAEC, qui est souvent le plus utilisé, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. On a aussi l'EARL, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, qui était plus utilisé dans les couples en général. Et puis les Sociétés Civiles d'Exploitation Agricole, les SCEA. Donc ça, c'est des officiels. Mais on trouve aussi des dynamiques sous forme associative, avec les associations loi 1901. On peut avoir, moi j'en connais peu, mais des scopes, en tout cas qui vont trouver dans ce statut plus égalitaire, mais aussi voilà, il y a le statut de salarié, il y a aussi la question du revenu qui est là. Donc on trouve toutes formes, et des fois c'est au cours de la vie d'un collectif que ces formes vont évoluer pour correspondre à des valeurs ou pour correspondre à des avantages fiscaux ou autres.
Ouais, les carottes violettes, il y a encore celle-ci en entier. C'est ça, c'est de la violette là où t'es.
Ouais.
Celle-ci entière, et il nous reste encore une moitié de celle-ci. Hein. Mais propose de la orange, oui, ça paraît plus logique quand tu vois la quantité qu'il y a. Là, tu lui as envoyé un message à 2,20€.
Ouais, je pense qu'elle la touche moins de 2€, donc ça va négocier.
Tu dis à moins de 100 kilos, on négocie pas.
La première grande question, c'est déjà de savoir si on veut tout mettre dans une même structure, en fait. Ouais. Ensuite, la deuxième typologie, c'est des gens qui veulent travailler sur un même lieu, mais qui veulent garder leur autonomie de décision. Est-ce qu'on est prêt à être indépendant dans les décisions, mais à quand même partager nos revenus, en fait? Et parfois, c'est pas toujours facile d'accepter pleinement de partager le revenu avec quelqu'un quand on n'a aucun droit de regard sur les décisions qui peuvent être prises, y compris techniques, économiques, commerciales, etc. Et donc, y a un certain nombre de gens qui font le choix de dire, en fait, nous, on a envie de travailler à plusieurs sur ce lieu, Mais finalement, on n'est pas prêt à aller jusqu'à être associé dans une seule même structure juridique. Et dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est de trouver une articulation juridique qui va permettre d'avoir des structures autonomes, tout en leur permettant de mutualiser éventuellement du matériel, éventuellement de la commercialisation, éventuellement de la main d'œuvre.
Imagine même qu'elle prend 100 kilos, quoi, comme ça va le finir.
Tu lui proposes 100 kilos toutes les semaines. Mais non, mais faut voir combien de planches on peut écouler nous en vente directe. Et après, tu lui alloues 3 planches, ça fait une tonne. Tu dis, il y a 3 planches pour les jardins, 2 planches pour Biocop et tout le reste, c'est pour nous.
Alex, il a vendu 30 kilos, là.
Oui, je sais, il a vendu 3 caisses. Et t'as vu les poireaux ? A priori, il a vendu une caisse, deux caisses max.
Il a vendu 14 kilos.
Hein ?
14 kilos.
Ouais, ben ça fait
2 caisses.
Ouais.
Ouais, tu vois.
Moi, j'en avais vendu 21 kilos, ça fait 3 caisses.
Donc à Segon, on est effectivement sur un collectif où en fait on a choisi de mutualiser beaucoup la partie habitation, c'est-à-dire que on a acheté le corps de ferme en SCI à 4, les 4 personnes impliquées au début dans le projet. Et à côté de ça, on a 3 autres structures. En fait, il y a 4 structures juridiques à Segon. C'est pour ça que c'est plus facile avec un schéma avec des paroles.
En face de la légumerie, il y avait un peu des constructions qui ont complètement disparu, qui ont été rasées. Il y avait un autre four à pain, il y avait un puits. Bon, il y a encore le puits, mais il est détruit. Mais il y avait... c'était complètement construit. C'était vraiment... un hameau, quoi. Littéralement, quoi. Qui est passé de... Je sais pas combien de personnes à, pour ainsi dire, zéro. Et voilà. Et là, on remonte petit à petit. De 4, enfin 5 même, à bientôt... 7-8, avec Jules et Lisa, dont on parlait.
Ah, le sens des pentes, dis-toi.
Non, mais c'est quoi qui est où? Le pigeonnier, il est où?
C'est là.
Tu l'as refait?
Le pigeonnier, il est là?
Oui, mais non. Nous, on est là.
Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est bon.
Je l'ai refait, oui. J'avais sous-estimé la... Et j'avais oublié un bâtiment.
La pentille.
Voilà, on a un joli plan. Ça, c'est Second vue du ciel. Je vais le mettre dans le sens.
Dans lequel on est.
Ouais.
Et maintenant, on va prendre une couleur.
Ben, on est plutôt comme ça, non?
Bah. Pas du tout. C'est la façade, elle est comme ça.
Ben, c'est cette façade-là.
Oui. Ben, alors, tu vois comment? J'aurais mis moi parallèle à ça. Pour qu'on...
On est oui, c'est marrant. Elle l'a mis parallèle à
oui.
Comme ça.
Mais non, rien.
Moi, c'est parfaitement bien pour
moi.
Ah
oui, moi aussi. C'est dur, ce que tu dis.
Vous voyez pas cette face-là?
Ça quoi?
Ouais.
La face du rectangle?
Ouais, vas-y, mets-toi parallèle à la feuille. Là.
Ah non, rien. Ton arc, il est comme ça. Si je me mets, si je suis ta main.
Bah oui.
Il a raison. Il a raison, mais moi, je suis d'accord avec toi.
Pourquoi? Il a raison.
Quoi?
Bah non.
Donc, il y a d'une part cette SCI qui s'appelle la poire en deux.
Tu veux comme ça? Ouais.
Qui contient simplement nous quatre, qui concerne vraiment les habitations. À côté de ça, on a la SCI qui s'appelle le Groupement Foncier Paysan de Segon, qui est un type de GFA en tout cas qui nous a permis d'acquérir le foncier collectivement. Donc ça, c'est une deuxième structure. Ensuite, il y a une entreprise donc qui, pour notre part, va passer en GAEC d'ici quelques semaines, donc un GAEC avec Tatiana et moi-même, tout à l'heure sur la partie brebis et paysans boulangers. Et de l'autre côté, il y a une autre structure, une entreprise individuelle, dans laquelle se trouvent Pio et Oriane sur la partie maraîchage. On était un peu tombés d'accord sur le fait de se dire ça fait déjà beaucoup de décisions collectives et beaucoup d'imbrications entre nous quatre. Et donc on va pas forcément se lancer tout de suite dans une activité agricole sous une seule structure à quatre aussi, parce que ben voilà, en fait, simplement on démultipliait un peu les débats, les réunions, les prises de décision, les désaccords, les questions d'argent, les questions d'investissement, et voilà. Et on avait cette envie-là de partir prudemment, de dire, voilà, dans l'idée, on a envie de partir vers quelque chose de collectif, mais on démarre prudent, avec chacun ses structures économiques, et ensuite, à voir comment ça allait se dérouler, si ça se passe bien, pourquoi pas rapprocher les deux structures et faire un gros GAEC à 4.
Qu'on a choisi le GAEC dans un souci d'équité, parce que le GAEC, ça permet à tous d'être à égalité, un homme, une voix. Et on a aussi créé un GFA à côté. Le GFA est propriétaire des terres, loue au GAEC pour faire un petit loyer, de façon à ce que si l'un de nous s'en va, il ne part pas avec les terres agricoles.
Préparation de la salle de traite pour la traite. Un filtre. Il vient à 7h. Ah, il fait des frais aussi. Ouais. Bon, écoutez. Si Julien vient, moi je viens plus tard. Ça me va. Voilà. Ça, c'est la vieille salle de traite que j'ai acheté quand je me suis installé. Donc elle a 35 ans. On l'a un peu améliorée, mais celle qui est c'est la machine la plus rentable de la ferme. Elle est amortie, elle coûte un peu d'entretien. On la bichonne. Allez! Entre le bout de la couloir, il peut pas rester inactif.
Ouais, mais il a pas un rôle particulier à ce moment-là. Quoi.
Si je lui dis, il vient aboyer aux vaches pour quelque chose. Hey, let's go. Ouais, c'est marrant. C'est bon. Il était là.
Il attend. Et alors, 50 vaches, c'est une ferme comment? C'est une ferme moyenne, petite, grande par rapport à la.
Mais ramener au.
À ce qui se fait en général.
Bah, les troupeaux de 50 vaches, maintenant, c'est plutôt des petits troupeaux, ce qu'on voit. Après, ramener aux travailleurs, c'est une toute petite ferme. Et qu'on est 4 à travailler dessus, même s'il y a un peu de diversification. Aujourd'hui, la norme, c'est. Enfin, j'en sais rien, mais les troupeaux, c'est 80 vaches. Pour une personne, quoi. Pour un couple. Ils sont... Ouais, et puis pour un robot, c'est 80 vaches aussi. Un robot est capable de traire 80 vaches.
Et donc, un robot, c'est les vaches, elles rentrent toutes seules. Ça se met tout seul.
Ton compte associé, c'est. Faut l'imaginer comme ton compte en banque à la ferme. Et donc, c'est de l'argent que te doit la ferme. Donc, notre idée, c'est de surtout pas, on dit faire monter les comptes associés, c'est-à-dire comptablement, tu travailles et donc tu as une rémunération. Et on te dit, donc la ferme te doit 1500 euros. Donc, hop, ils sont crédités sur ton compte associé. Mais pour pas que tes comptes associés montent, il faut qu'à un moment, quand même, tu le prélèves, ça. Et donc que ça sorte réellement de la trésorerie. Normalement, tu dois, quoi qu'il arrive, verser un SMIC à ton associé, enfin, te prélever. Donc, beaucoup de fermes, comptablement, le mettent au compte associé. Mais la trésorerie n'étant pas là, il n'est pas réellement prélevé. Donc à la fin d'une carrière, quand tous les mois, tu mets un SMIC sur un compte que tu ne prélèves pas, c'est-à-dire que tu mets 1200 euros, mais en fait, tu n'en prélèves que 400 euros par mois, à la fin de ta carrière, ton compte associé, il est à 200 000, 300 000 euros. Sauf que ça, c'est un dû. C'est un dû de la ferme à l'associé. Donc quand les fermes sont transmises, ça veut dire que toi, tu vas reprendre une ferme et tu dois 300 000 euros à l'associé qui sort. Et c'est un des plus gros freins à la transmission des fermes aujourd'hui. Si l'entreprise ne peut pas sortir la rémunération, elle est quand même notée et l'entreprise ne fait pas faillite. C'est-à-dire n'importe quelle entreprise qui ne dégage pas assez de bénéfices pour rémunérer ses associés, Périclite, c'est fini. Le modèle agricole n'est pas comme ça. Tu inscris au compte associé, et puis un jour, quand tu auras les sous, tu prélèveras. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les fermes dégagent un bénéfice, pas suffisant pour rémunérer leurs travailleurs. Et le peu qui reste, eh ben, est réinvesti, parce que de toute façon, il n'y a pas assez d'argent à la ferme, et c'est un cercle vicieux.
On sent qu'il y a une envie de beaucoup de jeunes de revenir à des choses concrètes, qui puissent faire de leur main et de sortir un peu du tout numérique. Mais de là à revenir en masse travailler dans les fermes, je le souhaite de tout cœur, et qu'il y ait plein de gens qui ont envie de revenir, qu'on installe plein de jeunes, et que la ferme soit aussi une vitrine pour... Enfin, ce qu'elle est peut-être un peu aujourd'hui, une vitrine pour installer d'autres fermes qui lui ressemblent, parce que je suis persuadé, par contre, que les fermes de nos voisins, avec une personne qui bosse 100 hectares, 100 vaches, ça n'a pas d'avenir, quoi. Ça a zéro avenir. Mais après, il faut du monde en face pour que les autres fermes puissent se transformer. Il faut du monde et de l'argent, puisqu'il y a aussi une valeur marchande des terres, des bâtiments. Et ça bloque beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, d'un retour à l'agriculture. Un des gros problèmes, c'est quand même l'accès au foncier.
Donc j'ai dit qu'on cultivait 80 hectares, et le GAEC n'est pas propriétaire. Et le GAEC est fermier de ces 80 hectares. Alors, en grande partie, à l'indivision familiale de la ferme. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça ne posait pas de problème, on va dire, puisque Jacques et Serge étaient membres du GAEC et sont propriétaires via l'indivision de la plupart des terres. Aujourd'hui, qu'on transmet le GAEC à du non-familial, enfin, hors cadre, l'indivision, elle nous échappe complètement. Sachant qu'aujourd'hui, ils sont 4. Dans 10 ans, l'indivision, ils sont 11, 12. Enfin, c'est énorme. Donc on est déjà vigilant au fait que il va falloir gérer avec beaucoup de propriétaires. Et donc, quand on a commencé à parler de la transmission, on est allé voir les propriétaires pour leur dire que la ferme allait être transmise, machin, et qu'il fallait renouveler les baux au nom des nouveaux associés. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de propriétaires qui nous ont dit « Ok, il n'y a pas de souci, par contre, moi j'ai l'intention de vendre. » D'accord. Et donc, le fermier est prioritaire à l'achat, mais si le fermier ne veut pas acheter, n'importe quel autre agriculteur peut préempter pour acheter. Et en faisant le tour des propriétaires, on s'est rendu compte qu'il y avait facilement une quinzaine d'hectares qui allaient être à vendre. Et à 5 000 à 6 000 euros l'hectare, ça fait quand même une petite somme. Le GAEC n'a pas la trésorerie pour acheter. Et nous, on s'est regardé à 6 et on s'est dit, est-ce que l'un d'entre nous veut acheter ? Est-ce que l'un d'entre nous peut acheter ? Et qu'est-ce qui se passe, en fait, si on le fait ? Ben, si on le fait, ça veut dire que, mettons, il y en a un des 6 qui a une grosse somme de côté qui dit, pas de problème, moi, je peux les acheter et je les mets à disposition à la ferme. Oui, mais nous, derrière, on travaille notre association pour faciliter l'entrée et la sortie des associés, s'il y a besoin. Du coup, c'est en fait celui qui achète les 15 hectares dans 5 ans. Finalement, il a envie de faire autre chose, ou son ou sa partenaire décide d'aller vivre dans le Nord et il part avec. En fait, on se retrouve avec un propriétaire qui est loin, il n'a pas de lien à la ferme. Et du coup, on s'est dit, il faudrait qu'on monte une structure qui puisse acheter les terres, qui deviennent propriétaires durables des terres, mais on n'a pas envie, nous, fermiers, d'être le seul moteur de cette structure, parce qu'on va s'épuiser à la tâche, et puis on pense que pour nos consommateurs et pour les habitants du territoire, il y a un vrai enjeu, parce que l'enjeu, c'est de maintenir des terres en agricole, avec des conditions environnementales qui leur sont favorables, du bio, etc. Et donc, on a fait une réunion d'information avec les consommateurs. Enfin, on a invité pas mal de monde. Et on est partis tous ensemble à la recherche de la bonne structure à monter. Et donc, on en est arrivé au fonds de dotation. Et là, on s'est fait accompagner pour arriver à la foncière élémentaire qui, aujourd'hui, est en mesure de collecter du don.
C'était pas que le fait de dire « on veut pas être propriétaire ». C'est pas que ça. C'est de dire « on a galéré à trouver des terres » parce qu'on est hors cadre familial. Voilà. Donc on a la chance d'avoir trouvé ce lieu, que Bernard nous ait permis de faire, d'avoir une transmission dans la durée, à ce rythme-là. Et on s'est dit, demain, pour X raisons, on n'est plus là, ce collectif n'existe plus, ou demain, on arrive à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait ? Et l'idée, c'était, si nous, peut-être qu'on a un peu galéré, ça serait bien que d'autres générations ne galèrent pas. Et on s'est dit que c'était important que ce lieu perdure au-delà de notre projet. Donc, comment faire pour que ce lieu n'appartienne à personne et puisse être transmis de génération en génération ? On découvre la foncière Antidote, un fonds de dotation national avec des idées politiques qui correspondent exactement à ce qu'on a mis en place et à ce qu'on souhaite développer. Leur objet, c'est de pouvoir sortir des biens immobiliers de la propriété privée et d'arrêter d'acheter indéfiniment de génération en génération des biens immobiliers, des biens qui devraient être considérés comme des biens communs. Et on est rentré dans le processus de cooptation, on s'est rencontrés, il y a une réciprocité dans nos valeurs, et suite à ça, on a créé une deuxième association sur ce lieu qui s'appelle les Communs de la Marigny, et cette association est gestionnaire de l'infrastructure. Voilà. Elle est gestionnaire des lieux, du bâtiment et du foncier.
Il a pris une jambe de vélo au milieu pour se faire un cadre. Et après, il a cerclé des fer plat et après il a vissé des lattes. Ah mince. Ah oui. Je pense qu'il faut plus le mettre, il fait que se coincer. C'est beau papa, t'as fait ça. Hein ? Non, le balai, il se coince tout le temps. Ici, l'autre fois aussi, il a pas de tabac à se coincer. C'est bon, c'est fini ? C'est très artisanal, mais ça nous a beaucoup aidé. C'est sûrement sa dernière année.
Cette petite machine.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'on a des galères et qu'on va s'acheter un truc un peu plus gros.
Ouais.
On va pouvoir laver plus de carottes.
Et refaire une dalle, un écoulement d'eau. Là, c'est pas trop l'idéal. Là.
Les nouvelles machines, elles fonctionnent à bain d'eau. Ce qui fait une économie d'eau, là. C'est quand même de l'eau qu'on perd. Bon, ça fait partie du jeu.
Comme une grosse machine à laver.
Mais bon, ce serait bien de changer un peu quelques pratiques.
Alors, la bonne blague de l'installation, du coup, c'est les banques. Je pense que ça, c'est le plus gros frein. Souvent, les porteurs de projets, ils s'installent sur des petites surfaces et tout, en se disant « je veux pas trop investir, je veux pas de prêts bancaires et tout ça ». Bon, ça se comprend, mais nous, dans les maraîchers qu'on avait rencontrés, il y a des gens qui nous ont dit « franchement, ne lésinez pas sur les investissements, équipez-vous correctement dès le départ, parce que faire du bricolage, vous allez vous épuiser, c'est pas très drôle, quoi ». Donc nous, on avait monté notre plan d'investissement, et à l'époque, on était allé voir une banque en Ariège, là, à Saint-Girons, qui nous avait dit ok, super projet, génial. Écoutez, on a monté le dossier, on avait monté des trucs béton, quoi, avec des bons prévisionnels et tout. Mi-décembre, elle nous rappelle en disant « pas de prêt bancaire ». Ah non, on vous refuse le prêt. En gros, les banques, ils flippent, quoi. C'était un prêt peut-être de 100 000 euros. Oui, c'est ça, 100 000 euros. Donc, 15 jours avant l'installation, la banque nous plante. Et entre-temps, nous, on avait participé à un concours Ferme d'Avenir pour un prêt participatif à hauteur de 25 000 euros. Et la plateforme devait nous débloquer les fonds à notre installation, mais moyennant un prévisionnel économique bien ficelé, et un accord bancaire. Donc là, on n'avait pas d'accord bancaire. Dans 15 jours, on attaquait. C'était compliqué. Et on a un peu pleuré auprès des organisateurs là, de ce concours pour leur dire « Donnez-nous les 25 000 euros et il faut qu'on démarre. » quoi. Et on vous promet que le petit papier signé de la banque, on vous le donnera. Donc ils ont accepté, ils nous ont fait confiance. Et notre conseiller à la chambre nous a vite aidé à nous retourner et à contacter d'autres banques ici localement. Et c'est la Banque Populaire qui nous a acceptés. Donc ils nous ont dit on vous suit, mais le temps de débloquer les fonds de la banque, ça n'a pas été avant mars 2017. Et la deuxième mauvaise surprise, c'est qu'ils nous ont dit nous on vous finance le rachat du matériel. Donc une 40 000 euros, mais on ne vous finance pas l'achat de l'irrigation et de la serre. Donc là, on leur a dit, mais vous êtes marrants, mais nous, on a besoin d'arroser les légumes. Enfin, réfléchissez un peu, non. Donc on a refait financement participatif. Donc Bluebees, pour le coup, c'était un prêt, les 25 000 euros. Qu'on a remboursé sur les 5 ans. Ben là, on a terminé de rembourser ça. Un prêt à taux zéro. Et après, on a refait un don participatif où on a là glané 9000 euros. Et ça nous a permis de financer la serre et l'irrigation. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir une banque et de demander de l'argent pour bien s'équiper au départ. Et après, nous, l'objectif, c'est aussi de vivre de notre métier. Et dans la logique des choses, il n'y a pas de souci pour rembourser les banques. Ça, c'est... Beaucoup de porteurs de projets sont effrayés de ça, mais en soi, il faut pas avoir peur, quoi. Normalement, tout se passe bien. Si on a bien réfléchi le truc, il n'y a pas de raison, quoi.
Donc on a fait pendant au moins 2 ans un tuilage où on était 9 sur la ferme, donc les 3 cédants qui étaient associés au GAEC, et nous 6 avec différents statuts. Donc Basile Berry était salarié, Jérémy et Laurine étaient en contrat CAP, donc c'est les contrats qu'on fait dans les espaces tests. Donc là, la ferme a monté le premier contrat espace test qui était porté par une ferme. Et ça permettait aux porteurs de projets, donc en l'occurrence Jérémy et Laurine, de se tester sur la ferme sans avoir besoin d'investir dans les outils de production. Ce qui permettait à la ferme derrière, si jamais ça ne fonctionnait pas, de dire « bon, ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas envie de vous installer ». Et derrière, nous, on peut rebondir et proposer à d'autres maraîchers de se tester parce que du coup, le matériel, il est là, les infrastructures sont en place. Et Pierre Hugo et moi-même, on était en CFI pendant 2 ans. Alors, il y avait aussi des histoires qu'on n'avait pas tous la capacité agricole parce qu'on est tous issus de différents milieux et de différentes études. Donc, on a pris les statuts qui étaient les plus arrangeants et les plus facilitants pour tout le monde. Donc, pendant 2 ans, on a été tous les 9, travailler une mini-association sur 2 ans et vraiment faire le tuilage. Et c'est vraiment le minimum 2 ans, je pense, pour faire un tuilage correct sur un gros collectif comme ça. Et aujourd'hui, donc depuis le 1er novembre, Serge est parti à la retraite et tous les 6, on a intégré le GAEC en tant qu'associé.
Allez.
On avance en fait sur 2 chemins parallèles, qui est la reprise de la ferme avec Bernard, donc qui me permet de concrétiser notre projet, et nous, notre réflexion de quel statut juridique portera le projet. En sachant que Bernard nous permet une reprise de ferme, d'un lieu agricole, mais notre projet n'est pas que ça. Notre projet, c'est pas que de l'agricole. C'est vraiment de créer une association agricole, sociale, culturelle, artisanale. Du compte de la difficulté aussi, entrer dans des cases administratives, parce que on était à la croisée de plein de secteurs. Donc là, après, ça a été aussi très bien, en fait. On a recherché un peu en France, qu'est-ce qui existait, quelle structure juridique pourrait porter ce projet, comment le mener à bien. Et on a cheminé plusieurs années. On s'est dit, pourquoi pas une association. Mais quand même, ce qui correspondrait le mieux, ça serait une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est vraiment quelque chose qui serait à l'image de ce qu'on est en train de monter. Puis on s'est dit, là, ça nous paraît un peu compliqué de monter sa forme juridique au démarrage du projet. Donc on s'est dit, on va démarrer par une association agricole. Premier choix, association. Très bien. Mais là, vers qui on se tourne, en fait ? Vers quelle chambre on va ? Quel numéro pour notre numéro de ciré ? Et là, on s'est dit, de toute manière, les premières activités qu'on va mettre en place par rapport à l'infrastructure que l'on a, ce sera les activités agricoles. Donc, on a opté pour une association agricole. Donc, on a un numéro de ciré agricole avec la chambre d'agriculture. Et par contre, ça a mis plus d'un an et demi pour avoir une reconnaissance de la MSA comme association.
Comme le cochon, c'est un animal super propre, il ne fait jamais ses besoins là où il dort. Et donc, si on lui assure une zone à l'extérieur plutôt humide, il va aller faire ses besoins dehors et il ne fera jamais à l'extérieur. Et c'est aussi pour ça qu'on les nourrit à part, comme ça il n'y a pas d'humidité dans les box. On les nourrit à un autre endroit. Et ça permet que nous, au niveau travail, on est juste à repousser un peu de foin et de paille tous les matins à l'extérieur et en remettre de la fraîche à l'intérieur. Voilà. Et après, une fois par semaine, on cure avec le tracteur, on nettoie avec le tracteur la partie extérieure.
Non, jamais.
Non, jamais.
Tu vois juste ça. C'est ça. Donc, c'est
un peu
de... Et jamais ça, ouais.
Nos droits au chômage nous ont permis d'être bénévoles et de pouvoir vraiment démarrer l'activité avant de pouvoir se salarier. De manière, on a été bénévoles, dès le démarrage du projet, donc 2015 à fin 2021. On souhaitait précisément que toutes les ressources soient mises en commun, donc après redispatchées en fonction des besoins de l'association. Et dans un idéal, déjà, on avait pensé à la retraite, par exemple, en se disant, mais en fait, on souhaite avoir tous le même statut et pas qu'il y ait une personne qui ait une retraite agricole, une personne qui ait une retraite de salarié ou autre.
Et aller voir des projets qui leur ressemblent, pas s'embarquer dans quelque chose qui ne leur ressemble pas. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, et même s'il y a sûrement des aménagements et... Ce qu'on idéalise n'est pas ce qu'on va réaliser, mais pas garder quand même en tête son idée initiale, quoi. Pas partir sur des projets qui sont dénaturés parce qu'on leur impose d'autres choses à côté. Bien garder son projet. Bon, après, il faut qu'il soit aussi rentable, il ne faut pas oublier ça. Que l'activité, il faut savoir ce qu'on veut sortir comme revenu.
Oui, c'est bon. Bonjour, là.
Projet n'est pas rentable et trop galère, ça va pas durer. Donc, quand le projet dure, il faut quand même une rentabilité, du temps disponible, s'il faut que ça laisse du temps. Donc, pour étudier tout ça, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de construire son projet. Il faut que ses aspirations se retrouvent dans le projet final. Qu'on se sente pas lésé en disant au départ, ouais, moi j'avais un projet d'un truc sympa qui me laisserait du temps pour voir les copains, pour faire d'autres choses à côté, puis être après complètement piégé par son projet, ça le fait pas. Un projet qui laisse beaucoup de temps, mais qui rapporte pas de quoi vivre au quotidien, c'est pas satisfaisant non plus. Voilà. Et après, pour tous ceux qui ont des petits projets, j'en vois plein qui disent, ouais, mais nous on a notre projet, ça marche. C'est compliqué, mais on est obligé d'aller chercher le RSA pour compléter. Je leur dis, mais c'est pas grave, ça. Le RSA, c'est aussi pour ça, c'est pour aider les gens à vivre, à monter leur projet. Si le projet n'est pas hyper rentable, le RSA est là pour ça. J'ai des gens qui chopent 50 000 euros de PAC, ils vont pas dire, bah ouais, notre projet n'est pas rentable, c'est grâce à la PAC que c'est rentable. Ils prennent la PAC et ils disent rien à personne.
À part faire de liens, d'un coup qui peut dire « c'est moi qui vais résoudre le problème financier » en mettant des sous de la société civile, d'un coup la reprise en collectif est une des solutions vraiment... en tout cas, nous, on perçoit qu'il n'y a pas énormément de solutions sur la transmission. Et aujourd'hui, les politiques publiques de transmission, c'est en train de basculer de l'État à la région, doucement. La région, elle se pose plein de questions sur comment faire. D'accord, il y a les fermes qui ne sont pas transmises, mais... Est-ce qu'on a vraiment les moyens de les transmettre ? Est-ce qu'on a vraiment des solutions ? Donc, le fait, ce qu'on disait au début sur est-ce que les collectifs sont pris au sérieux ou pas, et on va dire que les institutions ne sont pas complètement encore prêtes à ça. Et pourtant, sur la reprise des grosses fermes, les enfants d'agriculteurs, ils n'ont pas envie de la reprendre. Une personne toute seule ne peut pas la reprendre. Alors déjà, financièrement, c'est compliqué, mais même à faire vivre, c'est une vie d'agriculteur qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Donc... c'est pas exactement possible. Donc, à part le collectif, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit c'est le collectif qui a les moyens financiers, soit c'est Terre de Liens. Mais globalement, pour faire vivre un objet et faire en sorte que l'ensemble des terres, si c'est ça l'objectif, soit toujours valorisé, que les paysages soient entretenus, que, en plus de ça, ça produise pour le territoire. Mais déjà, ne serait-ce que de l'entretien, ça puisse perdurer plutôt que ça se ferme ou que ça agrandisse les fermes voisines. C'est vrai, c'est une des vraies solutions.
Bien sûr, mais nous, en pratique, il va nous falloir 20 ans pour savoir ça. Alors que toi...
il m'en a fallu 60, moi.
Et voilà, donc on est déjà un peu pré-informés.
On va se battre tous les deux.
On est pré-informés. Mais c'est vrai.
Ouais.
C'est vachement important.
On est chaque informé.
D'avoir quelqu'un qui peut te parler des terres, qui les a travaillées pendant des années, voire même des générations.
Oui. Ouais, parce que toi, c'est de ta famille, du coup, c'est de génération en génération, c'est une ferme qui se transmet. Et alors, tu t'es dit, je vais la transmettre à des gens qui n'y connaissent rien en agriculture.
Je ne vais pas regarder ça, il n'y a pas à y connaître l'agriculture, il y a de la volonté, c'est tout.
On a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'a priori négatif sur les néo-ruraux comme nous, quoi.
Moi, c'était pour éviter la solitude. C'est ça, le... C'est ça, en plus. T'es t'as qu'à voir, ton voisin, là-bas.
Pour moi, il n'existe pas de statut idéal du collectif. Ça, c'est une erreur, je pense, que font parfois un certain nombre de collectifs. Le schéma juridique, pour moi, il doit vraiment être la traduction du projet humain. Et ça, c'est une des difficultés que peuvent rencontrer les collectifs, c'est de trouver une structure juridique qui soit vraiment en adéquation avec leur groupe, leur projet, leur organisation. Plus le schéma juridique qu'on retient est en décalage avec la réalité du terrain, et plus ça crée des distorsions... ou des relations qui peuvent ne pas être très saines au sein du groupe.
Ce que j'aime dire lorsque je fais des présentations, c'est de prendre le temps de qu'est-ce qui nous réunit, pourquoi on est là ensemble, quel est le but visé, de pouvoir définir le projet avant de chercher la forme juridique ou avant de chercher la question fiscale, en fait. Alors, on peut souvent après c'est des ponts, bien évidemment, c'est des allers-retours entre les deux, mais de pas oublier en fait de quelles valeurs je pars en fait, quelles sont les valeurs importantes, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, vers quoi j'ai envie de tendre. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un champ de possible dans toutes les structures juridiques que l'on connaît. Il y a plein de cases, et ben ces cases, elles peuvent s'agrandir, elles peuvent s'étirer, elles peuvent se resserrer, mais c'est pas tout prépensé en fait.
C'était le collectif sous toutes ses formes. Épisode 2 de Paroles de collectif agricole, réalisé par Marie Cheneval. Collectif sous toutes ses formes. Épisode 2 de Paroles de collectif agricole, réalisé par Marie Cheneval. C'était le collectif sous toutes ses formes. Épisode 2 de Paroles de collectif agricole, réalisé par Marie Cheneval. C'était le collectif.
Venez d'écouter Paroles de collectif agricole de Marie Cheneval. Épisode 2, collectif sous toutes ses formes. On se retrouve à la même heure la semaine prochaine avec le troisième et dernier épisode de la série documentaire. Vous pouvez réécouter cette émission sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez l'émission Chemin d'Afrique par Calomé.